we have upgraded China's growth for this year to 1.9%. This is on the basis of one, very decisive health measures, two, fiscal stimulus to boost the support for the economy.
Ah bah oui, hein, ça ressemble à ça, une conférence de presse du Fonds monétaire international. Tenez, ce matin, on fait la connaissance de Kristalina Georgieva, la patronne du FMI, qui révise donc ses prévisions et confirme la résilience de la Chine. 1,9% de croissance cette année. Alors c'est sûr, hein, c'est moins que d'habitude, mais parmi les grands pays, la Chine est le seul avec un chiffre positif. Exportation, importation, c'est reparti, explique Madame Georgieva, grâce à l'argent public et à des mesures sanitaires drastiques. La Chine, donc, première entrée dans la crise et première sortie. Et nous alors, ben nous y sommes toujours. Hein. Vous voulez la dernière photo de l'écho ? Tenez, je prends celle de l'assureur crédit Euler Hermès pour la France, pour l'Espagne, pour les Pays-Bas, c'est la grimace. Couvre-feu, confinement, la croissance devrait rechuter au quatrième trimestre. Les économistes de l'OFCE, un autre institut, ont une image pour la reprise. Ils parlent d'une aile d'oiseau cassée. Et si vous, vous préférez les lettres, on a beaucoup souhaité le V, on a cru voir le U, on a redouté le L. On s'inquiète maintenant du W, mais aujourd'hui, la bonne lettre, c'est le K.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est le Mag Écho. L'attaché de production s'appelle Valentin Pérez. Nous avons deux réalisateurs ce samedi, Céline Hilla et François Audouin. Et à la technique, c'est Mathias Alléon qui nous accompagne. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec les débatteurs que je salue. Laurent Bigorne de l'Institut Montaigne. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Et bonjour à vous Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques.
Bonjour
Christian.
À tous.
Incroyable résilience chinoise, Christian.
Ah oui, c'est assez surprenant. On l'avait vu, la reprise en V du côté de la production et avec beaucoup de retard sur la demande. Mais ça y est, la demande chinoise commence à repartir et du coup, bah, tout repart en Chine.
Ouais, la conso. La bonne lettre en France, en tout cas, c'est le K. Ça semble être le cas. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Le problème, c'est la jambe du bas, les secteurs qui plongent. On va en parler évidemment avec le couvre-feu. Ce matin, quatre questions et un débat sur le couvre-feu qui va donc toucher 20 millions de Français jusqu'au 1er décembre. On se retrouve dans 3 minutes. Samedi 17 octobre, c'est la journée mondiale du refus de la misère. Nous avons une invitée exceptionnelle, c'est la prix Nobel, Esther Duflo, spécialiste de la lutte contre la pauvreté, entretien en direct dans une demi-heure. Et oui Christian, j'ai dit prix Nobel, alors allez-y, ça fait 10 ans qu'on le fait, mais allez-y encore.
Oui, bah, je vais le refaire encore, il n'y a pas de prix Nobel d'économie, c'est le prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel.
Laurent, rien à dire là ?
Rien à dire.
Non, rien à dire.
Prix Nobel.
Bon bah écoutez, ça me repose. Et puis juste avant 10h, le moment de répondre à vos questions de vie au boulot, bousculer la vie au boulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Deux questions.
Oui, sur le nouveau protocole sanitaire, une question de Jean-Marc et de Fabienne. Les salariés vulnérables seront-ils mieux protégés ? Et surtout, le télétravail va-t-il devenir vraiment obligatoire dans les zones de couvre-feu ?
À tout à l'heure Sandrine Foulon. Tout de suite, le couvre-feu, les précisions et les non-dits.
La décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu.
Emmanuel Macron.
Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France et à Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse. Ce couvre-feu, il se fera entre 21h et 6h du matin et il commencera à partir de ce samedi 0h.
C'est une fermeture déguisée de nos établissements.
Didier Chenet.
Le service du soir, c'est 70% du chiffre d'affaires de la journée. Vous imaginez ?
Président du groupement national des indépendants.
On a déjà perdu 50% de notre chiffre d'affaires, rien que par les mesures donc, que nous appliquons, bien entendu. Et quand il n'y a pas de restaurant, ça veut dire que les hôtels non plus ne fonctionnent plus. On est en train d'entraîner les restaurants, les hôtels, vers des fermetures qui ne veulent pas dire leur nom.
On va se battre et puis on va essayer de proposer quelque chose, certainement pas de baisser le rideau.
Stéphanie Lel, président de l'Association pour le soutien du théâtre privé.
Je crois que ça serait la pire des choses, à la fois pour le public, mais aussi pour tous les artistes, tous les techniciens, tous les emplois. Il va falloir être très 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 attentif aux plus fragiles d'entre nous qui, en effet, peuvent être sur des trésoreries déjà très fragilisées, sur des entreprises très fragilisées, à ceux qui risqueraient d'être obligés de mettre la clé sous la porte.
J'aurais juste donné un élément de comparaison.
Bruno Le Maire, ministre de l'économie.
Si nous procédions à un vrai reconfinement dans les zones où le virus circule activement, le coût serait de l'ordre de 5 milliards d'euros. Si nous avions un reconfinement généralisé, le coût serait de 15 à 20 milliards d'euros par mois. Je préfère de loin que nous prenions des mesures fortes, rapides, circonscrites, immédiates, et que nous soutenions fortement les secteurs qui sont le plus concernés, plutôt que d'être dans cette situation de reconfinement général qui serait insupportable psychologiquement, socialement et pour les finances publiques.
Aujourd'hui, le gouvernement fait ce choix-là de restreindre énormément l'activité de ces secteurs à forte interaction sociale.
Mathieu Plane.
Presque il a un droit de vie ou droit de mort sur certaines entreprises.
Économiste à l'OFCE.
Donc il est important qu'ils viennent aussi amortir le choc pour ces secteurs-là. Mais est-ce qu'il va pouvoir compenser l'intégralité des choses? C'est pas sûr, parce qu'on voit bien le chômage partiel. Il reste toutes les coûts fixes, notamment de l'immobilier, des locations. Ce qu'on peut espérer, c'est que ça ne dure pas plus de 6 semaines au maximum. Et espérons surtout que c'est des résultats sur la diffusion de l'épidémie.
Christian Chavagneux, je me tourne vers vous. Là, visiblement, il y a eu un arbitrage. On est toujours sur cette ligne de crête entre la santé et l'économie. Quelle philosophie générale a la décision de faire un couvre-feu dans donc 9 métropoles en réalité, l'Île-de-France et 8 autres?
D'abord la question sanitaire, hein. 80 000 personnes testées positives il y a 3 semaines, 120 000 il y a 15 jours, et ça a sûrement progressé la semaine dernière. Peut-être même que ça arrive trop tardivement. Donc la première clé, c'est le sanitaire. En même temps, c'est comme l'a dit Bruno Le Maire, un couvre-feu très très réduit, très spécialisé, évidemment pour les activités touchées c'est terrible, c'est pour ça que tout de suite le gouvernement a annoncé des aides supplémentaires. Oui, l'activité partielle de longue durée pour pouvoir garder les gens, mais en plus, si votre théâtre ou votre resto est fermé, le fonds de solidarité jusqu'à 10 000 euros par mois. Si votre resto est ouvert mais que le chiffre d'affaires a diminué, a été divisé de plus de 2, vous payez plus de cotisations patronales et l'aide de 20% sur la masse salariale. Un prêt garanti par l'État jusqu'au mois de juin alors que ça devait s'arrêter au mois de décembre. Décalage d'un an pour commencer à le rembourser. Bref, beaucoup d'aides. Au total, c'est vrai que les restos, les théâtres touchés, ça va être terrible, mais c'est 4% du PIB français qui est touché. L'OFCE, que vous avez cité, nous dit qu'à fin 2020, et ils avaient anticipé le fait que les mesures prophylactiques allaient durer pendant 6 mois encore, c'est 4,5% de la consommation française qui est touchée seulement.
4,5% du, oui, 4% du PIB, ces secteurs-là, mais en même temps, ça fait beaucoup d'emplois. Laurent, pour vous, la philosophie générale de cette décision de couvre-feu, vous la voyez comment?
C'est une double philosophie générale. D'abord, on cherche de façon très complexe à trouver l'équilibre entre la santé. Il ne faut pas oublier de dire, Christian a rappelé les chiffres, mais il y a eu 130 000 Français hospitalisés depuis le début de cette crise. C'est absolument considérable. Il y a un arbitrage entre la santé et l'économie. On cherche des mesures qui ne soient pas disproportionnées. Et évidemment, on a le sentiment que le président de la République et le gouvernement restent sur les présupposés du mois de mars, c'est-à-dire le quoi qu'il en coûte. On va dégager 1 milliard, Christian a détaillé les mesures. On va dégager 1 milliard au soutien des secteurs qui vont être touchés pendant ces 6 semaines. Alors on va se dire, maintenant 1 milliard, c'est plus rien. C'est quand on a un plan de relance à 100 milliards et puis des mesures d'aide d'urgence à plus
460,
de 400 milliards.
Pour 460 milliards, oui, 1 milliard.
Il n'en reste pas moins qu'un milliard, ça reste de l'argent. Et j'allais dire qu'il faut aussi replacer ça dans une vision un peu européenne. C'était très bien dit au début de l'émission. Aujourd'hui, on n'en est plus à savoir quel pays d'Europe qui fait le plus mal. Parce qu'en réalité, l'Europe fait globalement assez mal par rapport à l'Asie. L'Asie fait repartir son économie, ça va être un énorme sujet. Mmh. Et on voit, il y a un tour de vis partout, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas où on refusait les masques. Maintenant, on nous explique que les masques sont obligatoires et les réunions sont nécessairement contraintes. Même en Allemagne, les débats sont très rudes. Cette semaine, on l'a vu dans l'actualité, il y a des débats et ça clash.
Au niveau de la justice, c'est-à-dire les restaurateurs sont en train de...
Ça clash au niveau de la justice, ça clash entre le gouvernement central et les lenders, parce qu'il y a des mesures qui sont prises lenders par lenders. Et puis on voit une chose en Allemagne qui est assez préoccupante, et à mon avis on verra la même chose en France, une chute très très forte ces dernières semaines du moral des investisseurs et des chefs d'entreprise.
En réalité, c'est ça, Christian. Il y a un sujet sur peut-être que, en effet, tout ce qui est restauration. Parce que là, donc, il y a trois secteurs touchés, le tourisme, la culture, les spectacles, les théâtres, ciné, l'hôtellerie-restauration. Et en fait, peut-être que l'impact économique va être fort, c'est la jambe basse du cas pour ces secteurs-là, mais ce qui soucie, c'est l'impact psychologique aussi.
Oui, l'impact psychologique, pourquoi c'est important? Parce que on sait bien que dans ces conditions-là, l'économie de marché ne fonctionne pas. C'est-à-dire les investisseurs sont dans une situation d'incertitude radicale, ils savent pas trop quoi faire. Donc le rôle de l'État est important. Et moi, ce qui m'a surpris, dans la note de l'OFCE que vous avez citée tout à l'heure, Alexandra, c'est de voir que les pertes, la part des pertes absorbées par le secteur public, eh bien, c'est la plus faible en France par rapport aux autres pays européens. La puissance des plans d'urgence et des plans de relance, c'est la plus petite aussi face à cette énorme incertitude radicale. Il n'y a que la puissance publique qui peut rassurer. Or, 40% du plan de relance, nous dit l'OFCE, est peu susceptible de soutenir la croissance à court terme. Résultat, au bout de 2 ans, nous dit l'OFCE, on aura perdu 10 points de PIB, 10 points de richesse. C'est énorme. Et là, on voit bien que le gouvernement devrait en faire plus. Parce que par rapport aux autres pays européens, et je ne parle même pas par rapport aux États-Unis, on n'en fait pas assez.
Laurent,
en oui. comparatif.
Et une note pour aller dans le sens de Christian, en même temps poser un débat. On a déjà souligné dans l'émission à plusieurs reprises que la dimension conjoncturelle, c'est-à-dire des mesures qui vont avoir un effet immédiat du plan de relance, est insuffisante. En gros, sur l'année qui vient, c'est un point de PIB. C'est pas énorme, hein, quand on a une chute de 10
Exactement,
points de PIB.
Tout à fait.
Moi, je considère que c'est vraiment du côté de l'offre qu'on a un sujet. C'est vraiment une offre qu'il faut soutenir, c'est notamment l'investissement. Et c'est sûr que je suis
C'est-à-dire en faire encore plus pour les entreprises.
Bien sûr. C'est-à-dire aider les acteurs économiques, les entreprises, les investisseurs à se dire, on peut et on doit absolument continuer à préparer l'avenir, on doit continuer à investir dans les machines, investir dans les logiciels, investir dans les gens. Et surtout, il faut tout faire pour que le cycle d'investissement privé reprenne le plus rapidement possible.
La question, c'est comment, quoi.
C'est comment, mais je pense qu'il y a des outils qu'on n'a pas suffisamment explorés. On en a déjà parlé ici. Je suis convaincu qu'on a besoin de crédit d'impôt sur des investissements, notamment dans le digital. Et on le sait, d'ailleurs, ça a été dit la semaine dernière, c'est un des leviers qui est le plus préféré des patrons de TPE et de PME. C'est-à-dire de ceux qui peuvent investir le plus vite sur le terrain.
Christian, je reste un moment quand même sur ce couvre-feu. Qu'est-ce qui va arriver dans les secteurs concernés? Est-ce qu'on sait déjà évaluer si les restaurants, finalement, une majorité va devoir fermer parce que ça sera pas rentable? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce que ça veut dire que pour tous les habitants de ces métropoles, en fait, c'est une incitation à mettre au boulot dodo? Est-ce que vous savez ce qui va arriver?
On est sur des niveaux de perte de 30% minimum, déjà aujourd'hui avant le couvre-feu. Donc avec ce couvre-feu, il y a des restos pour qui les coûts fixes, c'est-à-dire ce que vous devez dépenser en loyer, ce que vous devez dépenser en connexion Internet pour faire venir les gens, vont être au-dessus de ce qu'ils vont pouvoir faire en chiffre d'affaires. Donc une partie des restaurateurs. N'oublions pas les théâtres vont être...
Ah, il n'y a pas eu d'exception culturelle. Hey, voilà, il y a eu débat.
Ils vont être obligés de fermer. Donc là, il faut absolument préserver cet outil de production, de services culturels, de services de restauration, etc. C'est pour ça que l'importance des aides est extrêmement forte aujourd'hui. Il faut absolument les soutenir et sur la durée surtout.
Deuxième question sur ce couvre-feu, Laurent Bigorgne. Ce qui a été décidé sur le télétravail, les employeurs sont, guillemets, invités à mettre en place le télétravail, mais pas à 100%.
Oui, d'abord, ça n'aurait pas de sens de le mettre à 100%, puisqu'il y a peu de structures où il y a 100% des gens qui peuvent passer au télétravail. Il y a nécessairement un certain nombre de fonctions qui sont attachées à un lieu, notamment des fonctions productives, mais pas que. Deuxièmement, je pense qu'un des acquis de la crise, en tout cas c'est en train de se constituer, j'en ai conscience dans la douleur, mais ça se constitue, c'est que ça a complètement relancé la négociation sociale. Il y a énormément d'accords qui, sur la base des ordonnances de 2017, sont signés. Il faut que le télétravail, ce soit un sujet d'entreprise. Et à la fois de patrons et de partenaires sociaux qui sont en responsabilité. Alors, depuis début octobre, le gouvernement aussi, on vous incite, on vous demande de faire 2 à 3 jours, il y a le protocole sanitaire qui, évidemment,
Sandrine Flou en parlera, oui.
Que vous indiquez et qui va renforcer les choses. C'est vrai qu'on est tombé pendant la période du confinement à peu près à 40% de télétravail, à 15% aujourd'hui. On doit pouvoir faire mieux, mais il faut aussi entendre pourquoi ça freine. Ça freine parce que il y a des réticences dans certaines entreprises vis-à-vis de l'idée que il y a toute une partie des gens qui peuvent télétravailler et ça va créer une coupure avec ceux qui ne peuvent pas. Donc il faut entendre ça. Il y a des organisations syndicales qui ont dit cette semaine, mais attendez, il y a des risques psychosociaux. Il y a des risques pour ceux qui devraient rester chez eux dans des conditions qui sont pas appropriées. Donc moi, je fais énormément confiance là-dessus, au bon sens et à la négociation. Et puis on regardera ce qui se passe in fine.
Qu'en négociation, il peut y avoir, Christian Chavagneux?
Oui, il y a entre 250 et 300 accords déjà sur le télétravail, nous dit le ministère du Travail, qui seraient en cours de négociation ou déjà signés. Donc oui, ça passera par l'entreprise. Nous, je vais vous dire concrètement... Mon directeur général d'Alternative Économique qui rencontre les délégués du personnel la semaine prochaine pour définir combien de jours minimum de télétravail, puisque c'est ce que le gouvernement nous a demandé, fixer un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour les postes qui le permettent. 40% des salariés en télétravail.
Pendant le confinement.
Pendant le confinement. 15% aujourd'hui. Ah, oh, bah, c'est pas beaucoup. Rappelez-vous qu'avant le confinement, il y a 3% des gens qui étaient en télétravail. 7% quand on ajoute le télétravail occasionnel. 3% donc on passe de 3% de gens régulièrement en télétravail à 15%. Donc c'est quand même très important. Le problème en France, et je suis d'accord avec Laurent, la négociation va être importante parce qu'on est dans une culture du contrôle. Et le contrôle du contrôle des salariés par les chefs d'entreprise. Donc la tentation pour certains salariés, ça va dire j'en fais moins. Pour certains patrons, j'en fais trop dans le contrôle. Et quid des syndicats ? Là, on a besoin de négociations, mais en télétravail, quel rôle pour les syndicats ?
Bon, oui. Donc je... oui,
et Laurent. Puis, il y aura une chose quand même, j'entends l'argument du contrôle et je le prends en partie. Il y a un autre argument qui, à mon avis, assez fort. Hein. On ne sait pas aujourd'hui mesurer, il n'y a pas suffisamment de recul, il n'y a pas suffisamment d'enquêtes sérieuses. On ne sait pas mesurer ce que sera la perte de productivité, par ailleurs, Guillaume. Certains gains, mais aussi la perte de productivité.
Tout à fait.
Troisième question, est-ce que cette décision du couvre-feu donc dans 9 métropoles, ça, c'est une décision qui touche encore plus particulièrement les jeunes ? Christian.
Oui, en mai, 9% des 15-24 ans en emploi avaient perdu leur travail. 2% des plus de 40 ans. Donc on voit bien que les jeunes, ils sont dans des statuts précaires et que quand il y a une grosse crise, les statuts précaires, bah c'est ces emplois précaires qu'on perd en premier et ce sont les jeunes. Le couvre-feu, est-ce que ça va rajouter encore ? Quels sont les trois premiers postes d'emploi des 15-24 ans, nous dit l'INSEE ? 20% dans le commerce. A priori, le commerce va pas être touché par la fermeture à 21h. 14% dans l'industrie. A priori, ça va pas être touché non plus. 10% dans l'hôtellerie-restauration. Ceux-là, ça va être les premières victimes du couvre-feu. Et pour ceux qui cherchent un emploi ou un stage, ça va rester encore plus difficile.
Est-ce que ça veut dire, Laurent, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette photo, est-ce que ça veut dire, j'ai entendu cet argument dans la bouche d'un économiste, il va falloir quand même qu'il y ait un échange entre générations. C'est-à-dire là, les jeunes paient cher pour sauver ceux qui sont les plus à risque. Est-ce que, économiquement, il va falloir que la facture se partage mieux ?
J'en suis convaincu. Il y a l'étude de l'INSEE de mercredi que cite Christian et qui dit bien ce qu'il en est de l'emploi. Il y a tout ce qui ne se voit pas. Le renoncement à des stages, les études supérieures qui sont pas nécessairement de même qualité, parce que objectivement, même si certaines universités se battent énormément, c'est très difficile de faire face à des amphis surchargés, etc., etc. Mais il y a deux faits par ailleurs macroéconomiques qui sont majeurs. D'abord, on est en train d'agourdir la facture des systèmes de retraite en France, puisque il y a moins de masse salariale et il y en aura moins dans les années qui viennent pour un certain temps, et donc on va creuser un déficit qui n'était pas attendu et qui va être plus important que prévu. Donc ça, c'est aussi un fardeau. Et puis, il y a tout le fardeau, on le sait, de l'augmentation très considérable de l'endettement public. Il va bien falloir que quelqu'un paye à un moment, et c'est évidemment, d'abord et avant tout, sur les jeunes générations que ça va retomber. Donc je pense que à la fois, ces problèmes d'éducation, ces problèmes d'emploi, ces problèmes de coûts accentués du système de retraite et de dépenses publiques font qu'à un moment ou un autre, on ne va pas échapper à une logique de transfert intergénérationnel. Il va falloir un peu de courage pour le poser, parce qu'on sait bien qu'évidemment...
Ça ressemble à une CSG sur les retraités, ça ressemble à
un alignement de la CSG et les retraités. On sait très bien que les retraités ont un niveau de vie qui est meilleur celui que des
actifs. Libéral typique. Dès qu'il y a...
Que ça vous dérange, c'est libéral.
Non, 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 maintenant je vais vous dire pourquoi. C'est pas simplement de la rhétorique. C'est pourquoi. Parce que ça veut dire que dès que quelqu'un a un problème, les autres n'osent pas jouer la solidarité. Les femmes de moins de 40 ans ont plus de grossesse que les femmes de plus de 40 ans. Donc elles coûtent plus cher en cotisation sociale aux femmes de plus de 40 ans. Donc les femmes avec grossesse doivent payer plus cher. C'est normal. Ben non, vous voyez bien que c'est pas normal. C'est complètement absurde le type de raisonnement que vous venez de tenir. Justement, le principe de la sécurité sociale, c'est le principe de la solidarité. Quand les jeunes avaient le sida, Les vieux devaient payer. On n'a pas dit aux jeunes, comme vous avez plus le sida que les vieux, vous allez payer. Vous voyez bien que le principe de solidarité, c'est fait que de temps en temps, une catégorie de la population a des problèmes, les autres payent.
Les arbres ne montent pas au ciel.
Est-ce que ça coûte trop cher ?
Les arbres ne montent pas au ciel.
Le conseil d'orientation.
On dépense déjà énormément pour les retraites en France, vous le savez. Beaucoup plus que dans la moyenne des pays de l'Union européenne.
Le Conseil d'orientation des retraites nous a dit 0,5, un demi-point de PIB de plus. Un demi-point, ça veut dire à peu près 10 à 12 milliards. Bah, la France emprunte 280 milliards par an. Est-ce qu'on ne peut pas emprunter 290
milliards ? On s'habitue, on disait tout à l'heure en début d'émission, on s'habitue maintenant à des montants de 100 milliards. Il me semble qu'effectivement, 10 milliards plus 10 milliards plus 10 milliards, ça finit par faire énormément d'argent.
280.
Et c'est les jeunes qui vont payer.
Bon, pas du tout d'accord là-dessus dans ce débat. Dernière question, si vous voulez bien, Laurent, Christian. On va avoir aujourd'hui le détail des nouvelles mesures contre la pauvreté, mais ce qu'on a compris dans le discours d'Emmanuel Macron dans son interview sur TF1 et France 2, c'est qu'il ne voulait pas augmenter les minima sociaux parce qu'il explique que ça rend difficile le retour à l'activité. Le chef de l'État dit c'est ce qu'on a constaté. Laurent. ne pas augmenter les minima sociaux parce que ça rend difficile le retour à l'activité. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Je ne l'aurais pas dit comme ça. Je n'aurais évidemment pas dit comme ça. Je pense qu'on peut partir d'un principe, c'est que les minima sociaux ont pas mal augmenté tout au long de ce quinquennat. En tout cas, certaines des prestations en question.
Les APL, par exemple.
Comment ?
Les APL, par exemple.
Non, je pensais plutôt à l'allocation adulte handicapé.
C'est sûr, les APL, elles ont baissé.
Je pensais plutôt à l'allocation adulte handicapé.
Attendez, laissez-le finir, Christian.
Il n'y a pas une prestation meilleure qu'une autre, hein, Christian. En l'occurrence, il y a eu à la fois plus de bénéficiaires, une augmentation moyenne de l'argent consacré à ces prestations. C'est là aussi beaucoup d'argent. Il faut faire un effort parce qu'évidemment, certains ont perdu à côté de leur RSA des petits boulots ou les quelques centaines d'euros qui faisaient toute la différence. Donc, je suis absolument convaincu qu'il faut faire un effort. Maintenant, je reste sur une philosophie qui a été dessinée depuis le début du quinquennat. Tout faire pour former et amener à l'emploi ces publics. C'est quand même le sujet.
La philosophie, Christian, depuis le début du quinquennat, Geoffroy Roux-de-Bézieux, le président du MEDEF qui était à ce micro il y a quelques semaines, nous a dit que la baisse de 10 milliards des impôts de production, c'était en moyenne 13 000 euros par entreprise de manière pérenne. Pour un pauvre sol, ce sera 150 euros et en une seule fois, 13 150. Vous avez là tout le résumé de la politique du gouvernement. Moi, j'attends avec impatience les annonces de ce midi.
Ça sera à la mi-journée.
À la mi-journée. Ce que je vais surveiller, ça va être... Est-ce que le gouvernement va faire ce qu'a dit le président de la République? C'est-à-dire, on va nous dire, on va mettre plein de sous pour que les gens, dans 5 ans ou dans 10 ans, ils aient un emploi. Donc, est-ce que c'est tout de suite du revenu pour les pauvres ou est-ce que c'est de la priorité de moyen terme? Est-ce que va y avoir plus que les 150 euros? Et dernière question, avec quel budget? Est-ce que c'est les 800-900 millions du plan de relance qu'on nous a déjà donné ou est-ce qu'il va y avoir du budget en plus pour aider les pauvres? Moi, voilà, j'attends les réponses à ces trois questions.
Laurent, le mot de la fin.
Sur l'argent pour se former, il y en a beaucoup dans le plan d'investissement dans les compétences, le PIC, mais surtout, j'ai lu comme vous l'étude de l'OFCE mercredi. Rappelons toujours que les entreprises françaises ont subi une perte de revenus de l'ordre de 56 milliards pendant la crise, les ménages seulement de 5. Et donc on a un sujet, c'est le tissu productif.
Oui, mais c'est les jeunes. Le problème, c'est les jeunes qui sont le trou dans le filet social. Et moi, j'attends que le gouvernement raccommode ce trou.
On s'arrête là sur le 4 questions et un débat. Allons voir ensemble comment l'économie se débrouille ailleurs au moment où les restrictions, on l'a dit, s'étendent en Europe. Et vous allez voir qu'au Royaume-Uni, on ne parle pas que de Brexit.
This is a BBC News special. Today's headlines.
Good evening, everyone. So we can squash this virus wherever it appears, we are today simplifying, standardizing, and in some places toughening local rules in England by introducing 3 levels of COVID alert.
Boris Johnson, we can squash this virus, dit le Premier ministre britannique. Oui, on peut l'écraser, ce virus, et pour ce faire, il explique, nous simplifions, nous standardisons et par endroits, nous durcissons les règles avec nos 3 niveaux d'alerte Covid. Richard Place, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Richard, vous êtes le correspondant de France Inter au Royaume-Uni et chez vous aussi depuis quelques heures, il y a de nouvelles restrictions.
Oui, depuis minuit, plus de la moitié du pays se trouve au niveau 2, le niveau élevé. C'est un découpage décidé cette semaine par le gouvernement et qui indique tout un lot de restrictions en fonction du taux local d'infection. Donc Londres, par exemple, où je me trouve, vient de passer en niveau 2, ce qui veut essentiellement dire que vous ne pouvez plus recevoir ou vous déplacer chez des amis, des proches, des collègues. La mixité sociale est interdite entre membres de foyers différents à l'intérieur, et ça inclut les pubs et les restaurants. À l'extérieur, en revanche, par exemple, si vous voulez faire un pique-nique à Hyde Park, vous avez le droit. Ces établissements, les pubs et les restaurants dont je viens de vous parler, subissent par ailleurs un couvre-feu dans toute l'Angleterre. Passé 22 heures, les portes doivent être fermées et les clients dehors, à Liverpool et aux alentours. C'est pire, puisque là, c'est le niveau 3, le niveau très élevé. Ça signifie notamment fermeture complète des salles de gym, des bars qui ne servent pas de vrais repas, et il y a un vrai débat ici pour savoir ce que c'est un vrai repas, et des casinos.
Et pour compléter cette photo, Richard, qui est en train de s'assombrir, on a chez vous, outre-Manche, les chiffres de la pauvreté, plus d'1,5 million de personnes qui ont basculé déjà dans la précarité.
Oui, ce sont les chiffres officiels de l'Office national des statistiques. C'est une conséquence directe de l'épidémie, ou plutôt des restrictions sanitaires pour lutter contre l'épidémie. Et ça ne va pas s'arranger parce qu'à partir du mois de novembre, l'État s'engage à payer ceux qui vont se retrouver au chômage, les salariés des pubs et des restaurants dont je vous ai parlé un peu plus tôt, par exemple. Mais ils ne le recevront que les 2/3 de leur salaire habituel. C'est pour ça qu'un grand nombre d'élus, dans le nord du pays en particulier, s'élèvent contre ces restrictions, considérant qu'elles vont porter un coup fatal à une économie déjà très fragile, défendant aussi des populations qui sont déjà parmi les moins aisées d'Angleterre. Dans ce contexte, le ministre de l'économie et des finances finances Rishi Sunak est sans doute le plus fervent opposant à un confinement général. Il a obtenu gain de cause jusqu'ici, mais la pression politique et surtout médicale est de plus en plus forte chaque jour.
Richard Place avec nous depuis Londres. Merci à vous, merci aux débatteurs Christian Chavagneux et Laurent Bigorgne. Nous allons continuer à parler de pauvreté, comment lutter par temps de pandémie. Ce sera avec la prix Nobel d'économie, Esther Duflo, avec nous dans quelques minutes. Mais d'abord, zoom sur les femmes victimes de la crise. Et vous avez peut-être vu cette étude qui date de quelques semaines. Fin juin, The Lancet, la revue scientifique, a montré le choc des genres parce que les femmes sont ultra majoritaires dans les métiers mal payés, notamment les métiers de service à la personne. L'épidémie, écrivent les auteurs, précarise une partie de la population et met en lumière l'importance de revoir la valeur du travail dans les secteurs féminisés. On en parle ce matin avec notre reporter Antoine Gignot. Bonjour Antoine.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Antoine, est-ce qu'ici en France on a des chiffres ?
Pour le dossier, j'ai appelé plusieurs associations, des chercheurs qui travaillent sur le sujet, des femmes qui basculent dans la précarité. Et on n'a pas de chiffres pour l'instant, on les aura au printemps prochain, mais on a une tendance qui se dessine d'ores et déjà ce matin. Je peux vous faire une sorte de photo de celles qui basculent dans la pauvreté et qui sont les femmes qui ont déjà les contrats les plus précaires, particulièrement dans le secteur de l'hôtellerie. L'un des exemples les plus extrêmes, c'est Solange. Elle est femme de chambre en CDI à Paris. Elle travaille depuis 5 ans pour un sous-traitant d'un grand groupe hôtelier. Elle gagne habituellement autour de 1000 euros par mois. Mais le mois dernier, son employeur, qui est en difficulté à cause de la crise, a totalement arrêté de lui verser son salaire.
J'ai pas de salaire aujourd'hui. Mon responsable m'a dit il n'y a plus de chômage partiel. L'État ne donne plus l'argent de chômage partiel, donc qu'elle ne me paye pas. C'est ce qu'elle m'a répondu. C'est devenu dur, il nous menace. Il veut nous faire partir avec la force. C'est une société qui abuse des gens comme nous. Ils en profitent pour te chasser. Et quand ils te chassent, ils ne vont même plus te payer. Le mois que tu as fait, ils ne vont pas te payer. Quand ils disent, bon, allons-y ensemble, on va voir les syndicats, pour qu'on en parle, elles ont peur.
Alors là, ça fait partie des cas les plus difficiles, avec un employeur malhonnête, mais dans les établissements qui respectent le code du travail. De toute façon, les femmes sont les premières touchées par les suppressions d'emplois. À cause de la crise, depuis le début de l'année, 46 000 postes ont déjà disparu dans le secteur de l'hôtellerie. 30 000 autres vont probablement être supprimés avant Noël. L'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie avance même le chiffre de 300 000 chômeurs si la situation sanitaire s'aggrave encore. Et partout, les femmes sont en première ligne, même dans le très chic hôtel Braque dans le 16e arrondissement de Paris. C'est ce que dit Emmanuel Sauvage, cofondateur du groupe Evoque Hôtel Collection.
Alors ici, sur cet établissement, on a 220 salariés, on a à peu près 600 salariés dans le groupe, et puis on aura, voilà, entre les départs volontaires et des départs économiques, on aura à peu près 25%. Je compte les sous-traités intégrés dedans, à peu près 25% d'effectifs en moins. Au début, voilà, on essayait de préserver le maximum d'emplois. Moi, j'ai toujours dit, je fais le tout pour préserver le maximum d'emplois. Et à un certain moment, on bascule un petit peu en disant, bon, attention, faut quand même qu'on réfléchisse pour pas mettre l'entreprise en danger. Il faut qu'on trouve des solutions. On voit bien que le groupe Accor a licencié 1500 personnes. Le groupe Hayat a licencié 1000 personnes. On est très impacté. Les taux d'occupation sont au plus bas à Paris. 10-12%. On devrait être à 80%. Donc, la situation est très, très grave. Le moyenne gamme, haut de gamme, même les 5 étoiles, très compliqué, tous les domaines sont touchés.
En termes de salariés, qui va être impacté en premier chez vous ? Quels sont les emplois qui sont les plus menacés ?
Donc les postes qui sont touchés, c'est notamment dans les étages, des femmes de chambre, des gouvernantes d'étage, des équipiers. Après, on a aussi des voituriers, mais parce qu'on n'a quand même pas la même activité, donc je pense que j'ai 7 voituriers en moins. Voilà, donc tous les postes principalement liés à l'hébergement.
Antoine, au-delà de l'hôtellerie, tout secteur confondu, qu'est-ce que ça donne pour l'emploi des femmes ?
Eh bien, pour avoir des réponses, Alexandra, je suis parti voir Rachel Silvera. Elle est économiste, maître de conférence à Paris 10 Nanterre. Elle co-dirige un réseau de recherche, marché du travail et genre en Europe. Et je lui ai posé cette question. Quand on regarde la situation après des mois d'épidémie, quelles sont les professions ou les profils qui sont les plus en difficulté aujourd'hui ?
Ce sont d'abord les précaires. Contrats à durée déterminée qui n'ont pas été renouvelés, ou des intérimaires, ou des temps partiels courts. Et là, on va trouver une majorité de femmes. Alors, c'est autour de 60% de femmes qui sont concernées. C'est une grande différence par rapport à la crise de 2008, où c'était surtout les secteurs industriels à majorité masculine qui étaient les plus concernés. Aujourd'hui, ce sont des secteurs plutôt à prédominance féminine, tourisme, hôtel, restauration, on va avoir un ressenti en termes de licenciement, de perte d'emploi ou de limitation des embauches, c'est certain. Il faudrait veiller, lorsqu'on octroie des aides, à ce que l'égalité soit portée. Il y a des lois, c'est pas parce qu'on est en crise qu'il faut les oublier et ne pas les appliquer. Bien au contraire, c'est un moment où on doit mettre cet accent parce que justement, la précarité, les temps partiels courts que l'on a voulu limiter et qui de fait continuent à se développer, eh bien, vont être le lot de nombreuses femmes.
Et puis il y a une inquiétude supplémentaire, Alexandra. Pour l'instant, je vous ai parlé des précaires et des peu qualifiés, mais la crise touche apparemment des femmes plus diplômées. Je vous emmène au nord de Paris, Porte de Saint-Ouen, dans les bureaux d'Adage, une association spécialisée dans l'insertion professionnelle. Chaque année, Sandra Gidon aide des femmes à se reconvertir, à changer de secteur ou à adapter leurs compétences. Et pour la première fois cet été, celles qui sont sorties au bout de 8 mois de formation n'ont pas trouvé de travail. Aucune embauche, ce n'était jamais arrivé.
Par exemple, on a des femmes qui sont actuellement en train de chercher des stages pratiques en entreprise, qui est un des meilleurs moyens de se faire embaucher. Et il y a quand même 2 entreprises sur 4 qui soit sont fermées, soit n'ont pas assez de clients, soit disent non, actuellement on ne prend plus de stagiaires. Et même des femmes diplômées, nous on accueille aussi des femmes assez diplômées, complètement sorties du système. Il y a beaucoup de stress et quasiment des post-traumatiques en fait depuis le confinement. Il y a une grande peur de pouvoir encore moins s'en sortir financièrement parce que depuis 3 ans, un des grands mots quand une femme arrive à Adage pour trouver du travail, c'est on s'en sort plus, on ne peut plus. On travaille déjà mais on n'a pas assez d'heures. Et là, il y a une énorme angoisse de s'en sortir encore moins, bien sûr.
Les femmes victimes économiques de l'épidémie. Un dossier signé Antoine Gignot.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et pour poursuivre la réflexion, nous avons le plaisir ce matin d'être avec une prix Nobel d'économie. Bonjour Esther Duflo.
Bonjour.
Récompense reçue l'an dernier pour vos travaux sur la lutte contre la pauvreté. Esther Duflo, cette crise, elle anéantit les progrès accomplis depuis les années 90 dans la réduction de la pauvreté. C'est ce que nous disent la Banque mondiale, le FMI. Vous êtes d'accord, cette pandémie, c'est un gigantesque retour en arrière dans la lutte contre la pauvreté et c'est inéluctable ?
Au moins temporairement, ça a été le cas. Bon, le PIB de l'Inde a chuté de 24%, par exemple. Et effectivement, la Banque mondiale prédit une croissance très très forte du nombre de gens qui vivent avec moins de $2 par jour et par personne, ce qui est une énorme régression par rapport au progrès qu'on avait connu. Ce qu'on peut espérer, c'est que cette régression ne soit pas permanente, c'est-à-dire qu'il y ait un retour plus rapide que les 30 ans que ça nous a pris pour réduire la pauvreté de ce nombre de gens.
Et comment faire ? Quelles peuvent être les actions pour que ça aille plus vite, qu'on récupère, que les pays les moins avancés, les plus pauvres récupèrent plus vite ?
D'abord, je pense que ça va demander un contrôle de l'épidémie elle-même, d'où la question de la vaccination et de l'accès aux vaccins dans les pays pauvres.
Ça vous rend inquiète ?
Et ensuite, même si ça me rend inquiète, ben, tout le monde est un petit peu inquiet de savoir s'il y aura un vaccin ou pas, mais s'il y en a un, se pose aussi la question de est-ce qu'il sera disponible de manière généralisé dans les pays pauvres. Pour l'instant, il n'y a pas d'engagement dans ce sens de la part des pays riches.
Alors la situation en France maintenant, fin septembre, on s'en souvient, vous avez pris la parole, Esther Duflo, pour un confinement total du 1er au 20 décembre. Vous avez appelé ça un confinement de l'Avent pour sauver les fêtes de famille à Noël. On a une décision cette semaine, c'est un confinement nocturne et localisé. Qu'en pensez-vous ?
C'est une autre stratégie. Bon, c'était évident qu'il fallait faire quelque chose. Je pense que ça aurait été mieux de le faire. S'ils voulaient aller dans cette direction-là, je pense que ça aurait été mieux de le faire il y a quelques semaines plutôt que maintenant. Parce que maintenant, on a mis en place le couvre-feu dans une situation où on a déjà beaucoup de contamination. On ne sait pas à quel point beaucoup, puisqu'on les mesure en fait très très mal, mais on voit bien que le nombre d'hospitalisations augmente, ce qui signifie que derrière, il y a forcément un très très grand nombre de contaminations. Et donc j'espère que ce sera suffisant, c'est clair que ça peut aller que dans le bon sens, mais il est possible que l'épidémie est déjà circulée trop rapidement pour que ce soit suffisant.
Alors sur la stratégie face à cette pandémie, la stratégie économique jusqu'à présent, le gouvernement a choisi de maintenir les entreprises à flot quoi qu'il en coûte, en affichant une priorité qui est l'emploi. Et on nous a expliqué que c'est la meilleure façon d'éviter que des citoyens basculent dans la pauvreté. Est-ce que pour vous c'est une bonne stratégie?
Je suis d'accord avec la partie de la stratégie qui constitue à dire quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que pour l'instant, il est vraiment impératif de dépenser tout l'argent qu'il faut pour maintenir les entreprises et les consommateurs, les citoyens, les travailleurs, les précaires à flot. Je suis moins d'accord avec l'emphase, l'accent qui est porté sur les entreprises, disons dans l'ordre, on a entreprise, puis salariés, puis précaires. Ceux qui n'ont pas accès aujourd'hui à l'emploi ou ceux qui étaient en CDD, qui ont perdu leur CDD, se retrouvent avec très très peu d'aide et certainement pas suffisamment, à la fois pour eux-mêmes, pour leur survie à eux dans la dignité et leur survie tout court d'ailleurs, puisque plus les gens sont dans des situations économiques fragiles, plus ils sont à risque du virus. Et aussi pour le bien-être de l'économie dans son ensemble, puisque ces gens sont aussi des gens qui consomment, sont aussi des gens qui prennent des décisions de s'acheter des choses dont ils ont besoin. Et s'ils le font pas, l'ensemble de l'économie va s'arrêter.
Donc ce que vous nous dites, c'est que les plus précaires sont quand même les oubliés, c'est ça? Et qu'il faut faire aujourd'hui, justement on attend des annonces, il faut penser à eux, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer la donne? Vous attendez quoi? On entend augmentation des minima sociaux, on entend RSA jeunes, on entend d'autres qui disent il faudrait faire un revenu universel d'activité. Pour vous, que faudrait-il entendre aujourd'hui de la part du Premier ministre?
Le président a annoncé une prime ponctuelle aux détenteurs des minima sociaux, ce qui est mieux que rien, hein, mais c'est très 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 faible. Quand on parle de quelques centaines d'euros au maximum pour une famille une fois, c'est clair que ça va dans le bon sens, qu'il faut que ça va aider pendant un moment, mais je pense qu'on est loin de ce qu'il nous faut aujourd'hui. Il faudrait revaloriser le RSA beaucoup plus largement, s'appuyer sur l'APL pour donner un revenu pour les jeunes. En tout cas pour les mois à venir, peut-être même un an à venir, jusqu'à ce que la situation du virus s'améliore. Il y a une très très grande peur dans ce gouvernement, et le président l'a rappelé, que augmenter les minima sociaux conduirait à une réduction de l'activité parmi les précaires. Et il a dit une phrase qui m'a étonné, qu'il l'a constaté. Ils l'ont constaté, je sais pas où ils ont pu le constater, puisque au contraire, toutes les études dans le monde entier, y compris les études qui ont été faites du programme américain CARES, qui donnait $600 par famille pour les gens qui étaient au chômage pendant l'épidémie, ont montré qu'il n'y avait aucun effet décourageant sur le travail de garantir à ceux qui n'avaient pas d'emploi un revenu plus important.
Donc augmenter les minima, c'est important ce que vous dites, Esther Duflot, parce que c'est vraiment l'argument qu'a employé le chef de l'État. Augmenter les minima sociaux, on ne sait jamais revenir en arrière et ça décourage de reprendre un emploi, ça n'est pas vrai.
Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune donnée qui nous montre dans le monde entier, dans les pays pauvres, dans les pays riches. On a maintenant des dizaines d'études tout à fait rigoureuses qui le montrent. Il n'y a pas d'effet décourageant de minima sociaux plus généreux sur la reprise de l'emploi. Au contraire, quand il y a un effet, il est plutôt positif parce qu'il il donne aux gens un petit la paix mentale dont ils ont besoin pour tirer avantage, par exemple, des mesures de formation qui leur sont proposées, d'essayer par exemple un emploi qui est très très peu payé en se disant c'est pas grave, je maintiens quand même mon minimum si ça marche pas, etc., etc. Donc s'il y a un effet, quand on voit un effet, il va dans l'autre sens.
Donc, est-ce que
les minima sociaux plus généreux encouragent et facilitent la reprise de l'activité?
Donc, est-ce que vous savez expliquer s'il n'y a pas de fait économique et que ça n'a pas été constaté? Vous savez expliquer pourquoi le chef de l'État ne le souhaite pas, augmenter les minima sociaux?
Je ne sais pas pourquoi il ne le souhaite pas, mais pourquoi il pense de cette manière-là, c'est parce qu'en fait, la plupart des gens pensent de cette manière-là. Et là, la profession économique a vraiment joué son rôle négatif, c'est-à-dire a un peu perpétué ce mythe. Il y avait un article dans le Wall Street Journal il n'y a pas très longtemps en disant « Tout le monde sait que si on est payé à rien faire, ça va décourager l'emploi. » C'est le bon sens commun. Et c'est vrai que tout le monde a un petit peu ça dans sa tête. Quand on interroge les gens, c'est ce qu'ils pensent. Donc c'est un mythe, une intuition qui est extrêmement généralisée, à la fois chez les citoyens et chez les hommes et les femmes politiques, parce que c'est dans la culture, c'est ce qu'ils ont appris dans leur premier cours d'économie. Il se trouve que empiriquement, ce n'est pas vrai.
Esther Duflo, on parle un peu de la facture, 100 milliards de plans de relance, 460 milliards, on l'a dit dans notre débat pour les mesures d'urgence. La dette explose, est-ce que ça inquiète la prix Nobel d'économie que vous êtes?
À court terme, comme on l'a dit au début, je crois que c'est vraiment quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire, est-ce que ça m'inquiète? Ben, oui, ce serait mieux qu'il n'y ait pas une explosion de la dette, mais quelle est l'alternative? L'alternative, c'est que la crise économique s'enfonce, et que donc le coût économique dans quelques mois soit beaucoup plus large que ce qu'on aurait autrement. Donc en fait, c'est pas vraiment le choix entre de la dette et pas de dette, c'est le choix entre un coût aujourd'hui versus un coût beaucoup plus important dans quelques mois ou quelques années, un enfoncement dans la crise comme on a eu après la crise de 2008 où les relances budgétaires se sont arrêtées trop rapidement.
Mais la question c'est qui va payer.
L'avantage d'un gouvernement, c'est que c'est pas un bon père de famille, il est pas obligé de maintenir son budget équilibré à chaque instant, il peut s'endetter, surtout quand on le fait au niveau de l'Europe aujourd'hui, où la crédibilité de l'Europe comme créditeur n'est absolument pas en jeu.
La question,
après,
c'est quand même qui va payer,
un petit peu plus moyen.
Vous,
un terme un petit peu plus moyen, se pose la question de qui va payer. En fait, personne ne va payer directement, mais ça il y a quand même des inconvénients à avoir énormément de dettes de l'État, en particulier des taux d'intérêt très très faibles, qui finissent par bénéficier plutôt aux plus riches qui détiennent des actions, plutôt qu'aux familles qui détiennent de l'épargne, qui sont payées en taux d'intérêt et donc très peu payé. Donc à moyen terme, il va falloir se poser la question de comment on finance la solidarité nationale, comment on finance une société qui est plus résiliente, comment on finance une société qui est plus juste. Et ça va passer, à mon avis, ça ne peut que passer par un changement de la fiscalité.
Vous militez toujours
de la fiscalité qui la rende plus juste et plus progressive.
C'est-à-dire vous militez toujours pour le rétablissement, par exemple, de l'ISF, l'impôt sur la fortune.
Je peux pas dire si je milite, mais effectivement, quand on me pose la question, je dis toujours que c'est un impôt qui n'aurait pas dû être aboli, et puisqu'on l'a aboli, ce serait bien de le remettre en route. C'était un impôt qui était efficace et juste, et qu'on pourrait se redonner comme un des outils pour construire une société plus solidaire.
Esther Duflo, la prix Nobel d'économie, merci infiniment d'avoir été avec nous, on l'a entendu à distance, mais avec nous ce matin. Vous qui êtes revenu enseigner en France pour une année, merci d'avoir été sur France Inter.
Merci.
Sandrine Foulon, Ma vie au boulot, nous avons deux questions d'auditeurs ce matin. On commence tout de suite avec Fabienne. Dans les zones où il y a maintenant le couvre-feu, alors elle veut y revenir, Fabienne. Est-ce que le télétravail devient obligatoire?
Fabienne, le nouveau protocole sanitaire oblige les employeurs qui sont dans ces zones de couvre-feu à fixer, dans les règles du dialogue social, un nombre minimal de jours télétravaillés par semaine, pour les postes qui le permettent. Les entreprises devront aussi adapter les horaires pour éviter l'affluence aux heures de pointe. Partout ailleurs, elles sont simplement invitées à appliquer ces recommandations. Dans les métropoles les plus exposées au virus, ça veut dire que les directions et les représentants du personnel sont censés négocier très vite, dès la semaine prochaine, des accords. Ça veut dire aussi que les employeurs peuvent décider unilatéralement. Je rappelle qu'en période de pandémie, ils peuvent imposer le télétravail à leurs salariés, alors que l'inverse n'est pas vrai. Ça veut dire surtout, Fabienne, que contrairement à la première vague où le télétravail intensif était la norme, ce sont les directions qui vont choisir le nombre de jours. L'obligation reste très souple. C'est le même dilemme que pour les salariés vulnérables. Il faut concilier protection des salariés et reprise de l'activité. Avec 25% des clusters détectés en entreprise, c'est une lourde responsabilité laissée aux employeurs qui ne sont pas tous, loin de là, de chauds partisans du télétravail.
Alors, les salariés vulnérables, ça c'est la question de Jean-Marc qui revient sur votre chronique d'il y a 15 jours. Bonjour Jean-Marc. Avec le nouveau protocole sanitaire, vous demande-t-il, sont-ils mieux protégés les salariés vulnérables ?
Alors Jean-Marc, ce qui protège ces salariés et fonctionnaires qui souffrent de diabète, de pathologies cardiaques ou respiratoires et qui sont dans l'incapacité de télétravailler, ce n'est pas le protocole sanitaire, c'est le Conseil d'État. Avant-hier, les magistrats ont suspendu les restrictions qu'avait imposées le gouvernement fin août. Ça faisait un mois et demi qu'on était passé de 11 à 4 critères seulement. Il n'y avait plus que les personnes dans des situations extrêmes qui pouvaient bénéficier du chômage partiel ou d'un arrêt de travail. Tous les autres devaient travailler. Le ministère de la Santé avait alors expliqué que mettre 3 millions de salariés vulnérables en arrêt, ça coûtait cher. 3 milliards d'euros par mois pour les caisses de l'État et 400 millions d'euros pour les employeurs, à supposer évidemment que tous ces salariés vulnérables aient voulu s'arrêter. Mais de toute façon, le Conseil d'État a jugé que cette restriction était incohérente et pas suffisamment justifiée par le gouvernement. Donc c'est très clair, Jean-Marc, en attendant le nouveau texte, ce sont les anciennes règles plus protectrices qui s'appliquent. Et bonne nouvelle, les proches de ces salariés vulnérables peuvent aussi à nouveau être en activité partielle s'ils ne peuvent pas télétravailler.
Sandrine Foulon, toutes les réponses sur Ma Vie au Boulot.